We would like to greet everybody
Nous voulons saluer chacun, chacune ce matin dans ce merveilleux journée glorieuse. C'est une journée si froide que nous expérimentons encore dans cette partie du monde en ce mois d'octobre. Mais nos cœurs sont réchauffés, nous sommes si heureux et reconnaissants au Seigneur. Nous nous sentons comme ayant été dans une ville qui a été assiégée. Rappelez-vous dans l'histoire, quand les ennemis attaquaient une ville, alors ils encerclaient la ville. Et alors, il coupait toute relation avec l'extérieur. La ville était coupée du reste du monde. Alors, chers frères et sœurs, dans une certaine manière, c'est comme si nous avons été encerclé ou sous siège ici. Mais aujourd'hui, c'est le premier dimanche où officiellement nous avons le droit d'avoir jusqu'à 750 personnes, donc avec les levées des certaines restrictions. Donc c'est la première fois depuis si longtemps que nous pouvons être jusqu'à 750 personnes. Et c'est si merveilleux d'être ensemble, même si la journée est froide, comme je l'ai déjà dit, et si même si beaucoup d'entre nous sont déjà partis pour participer à on dirait en français une marche pour la vie, mais c'est plus une démonstration contre l'avortement. Alors avant de commencer, nous voulons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté, pour ce merveilleux dimanche glorieux que tu nous accordes. Bénis cette journée de dimanche, fais-en une occasion de communion entre nous. Communion avec toi, d'abord au travers de ton Saint-Esprit. Mais également communion entre nous. Seigneur, s'il te plaît, parle-nous et révèle-toi à nous. Amen. Alors, nous avons aussi la visite de trois frères ici. Et on pourrait dire qu'ils étaient aussi encerclés. Et ce sont des frères qui viennent d'Allemagne. Et nous voulons les saluer. Et les saluer là comme, soldats du Seigneur, là où ils étaient aussi encerclés, isolés, et nous sommes si heureux de les avoir parmi nous. Et Pasteur Stegen a demandé si chacun pouvait avoir l'occasion de donner une parole de salutation. Donc, nous avons un frère Hans Hertel, Peter Töpfer et Johannes Ecker. Alors avant de continuer avec la réunion, Est-ce qu'ils peuvent saluer ou s'avancer et donner une salutation? Et nous sommes tellement heureux d'avoir votre visite et que le Seigneur puisse vous bénir et bénir ce temps.
Zuallererst möchte ich ganz herzlich danken, ganz besonders dem Herrn, dass er uns die Tür geöffnet hat, um heute bei euch zu sein.
Alors tout d'abord, j'aimerais remercier spécialement en premier le Seigneur qu'il ait permis, qu'il ait ouvert la porte pour que nous puissions vous visiter aujourd'hui. Dans ces temps actuels, ce n'est pas quelque chose d'évident de pouvoir voyager comme cela. Mais si le Seigneur planifie les choses, alors tout est possible. Comme vous avez déjà entendu, mon nom est Peter Töpfer. Et depuis quelque temps, j'ai aussi reçu un nom Zulu. Piet Mbumbi. Ah. Mbumbi, ça veut dire le potier. Alors, ma prononciation n'est pas si bonne, mais je sais pourquoi je viens d'Allemagne et pendant de nombreuses années j'ai vécu dans la région de Lunebourg. Je suis vécu très près de là où viennent les ancêtres de la famille Stegen, juste à côté. J'habite désormais tout au nord de l'Allemagne, tout en haut. Et le Seigneur m'a permis d'avoir un endroit merveilleux où je peux vivre et être. En 1984, c'est la première fois que j'ai visité la mission ici. Et souvent, au cours des dernières années, depuis cette année-là. Une des choses que j'ai appris dès le début, c'est que seulement que seul avec la bénédiction de Dieu, les choses peuvent être bénies, les choses peuvent bien aller. Et c'est là ma prière pour vous, pour moi, comme il est écrit en haut, Seigneur, reste avec nous. Et merci beaucoup pour l'amour, tout l'amour qui a été exprimé et que nous avons expérimenté. Et que le Seigneur puisse vous bénir richement pour cela. Merci beaucoup.
C'est bon, hein? Now I'm Hans Hertel from Berlin.
Bonjour. Alors, je suis Hans Hertel de Berlin. Comme l'a dit Dr Albi, en ce temps de Covid, nous avons comme été encerclés ou sous siège. La dernière fois que nous étions là avec ma femme et moi, c'était en janvier l'année dernière. Et juste après que nous soyons rentrés à la maison, c'est comme si toutes les frontières ont été fermées. Et donc, à l'époque, pouvoir revenir ici en visite, c'était quelque chose qui paraissait si lointain. Mais nous sommes si contents de pouvoir revenir. Et nous ne pouvons que remercier notre Seigneur d'avoir ouvert la voie, d'avoir permis de pouvoir revenir. Et merci de nous accueillir, de nous permettre d'être ici. Ça a été un temps béni pour le temps que nous avons déjà passé ici. Et quand j'ai partagé dans notre assemblée le projet de venir visiter ici, il y avait comme un écho dans l'assemblée où les gens ont dit « Ah, on aimerait tant venir avec vous ». Donc nous avons confiance dans le Seigneur qu'il permettra à d'autres frères et sœurs en Allemagne de pouvoir aussi venir visiter et de pouvoir expérimenter ce que nous expérimentons maintenant. Et un des frères de notre assemblée envoient leur salutation cordiale. Merci.
Good morning.
San Bonani.
Bonjour. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis si reconnaissant de pouvoir être là. Mon cœur est rempli de joie, de reconnaissance. Et j'aimerais utiliser cette occasion pour remercier Oncle Erlo et les coéquipiers avec lui qui sont restés fidèles toutes ces années. Qui sont restés fidèles à ce message et au réveil. Et nous sommes reconnaissants de voir comment le Seigneur nous aide aussi à la maison. Et j'aimerais aussi utiliser cette occasion pour transmettre les salutations de mon domicile ou mon foyer, ainsi que les frères et sœurs de l'Assemblée. Ce matin, je suis allé en marché avec ma fille jusqu'à la nouvelle usine. Et donc, nous avons pu voir l'emplacement de la nouvelle usine d'emballage, la nouvelle serre. Et cela a touché mon cœur. Le Seigneur est à l'œuvre. Et sur mon cœur, j'ai le désir que l'œuvre de Dieu ne s'arrête jamais et que ce réveil puisse continuer. Merci beaucoup pour toutes vos prières. J'ai appris que certains d'entre vous priaient pour moi tous les jours et je peux témoigner que le Seigneur répond à vos prières. Donc merci de pouvoir être là et que le Seigneur vous bénisse. Merci aux frères. Je ne sais pas s'il désire dire quelque chose, même s'il ne veut pas. Nous voulons souhaiter la bienvenue à Oncle Ferny et à Tante Christine qui sont en visite depuis la France. Et nous avons confiance qu'ils auront un temps béni avec nous, parmi nous. Merci.
Thank you for what was said.
Merci pour ce qui a déjà été dit. C'est merveilleux lorsque quelqu'un parle et que nous on peut sentir l'unité avec ce qui est dit. Je suis encore très jeune, mais nous regardons à ceux qui sont plus âgés, qui sont passés devant nous et qui sont restés fidèles et qui restent fidèles à cette œuvre et au Seigneur. Et nous voulons les honorer pour cela. Et nous voulons suivre l'exemple qui est donné. Ce matin, j'aimerais lire un certain nombre de versets dans le livre de Timothée. Ces derniers jours, j'ai lu les deux livres de Timothée, les deux lettres adressées à Timothée. Et cette lecture m'a béni au point où j'ai relu plusieurs fois ces lettres. Et je ne sais pas si cela va vous bénir comme cela m'a béni. Mais si vous avez le temps, alors prenez le temps pour relire ces deux épîtres, ces deux lettres à Timothée. Vous pouvez lire les deux. C'est des lettres courtes, donc rapides à lire. Vous pouvez lire, relire donc 1 et 2 Timothée. Et s'il y a tellement de choses, c'est tellement riche. Il y a différents sujets. Paul écrit à Timothée et l'enseigne sur un certain nombre de sujets. Il l'avertit des fausses doctrines au sein de l'Église. Parce que Paul s'adresse à Timothée et à des chrétiens. Paul écrit aussi sur la compassion, la grâce de Dieu. Et un verset que j'ai surligné, dès 1 Timothée 1, verset 19. Il dit, alors en anglais c'est un peu rendu différemment, mais il dit « Accroche-toi à ta foi et avec une bonne conscience ». Et cela, je l'ai surligné parce que cela me rappelle un événement d'il y a quelques années en arrière. Certains jours sont faciles, d'autres jours sont plus difficiles dans la vie. Et je me rappelle, cette journée-là, la journée était difficile. Et j'ai ouvert ma Bible. Et j'ai lu ce verset. Il est dit, en anglais, il est dit, « Accroche-toi à ta foi. » Parfois, il arrive qu'il faut s'accrocher à sa foi, à la foi. Comme s'il semble que la foi n'est plus là. L'impression d'être perdu. Mais là, il est dit, accroche-toi à ta foi. Et quand j'ai lu ce verset, à ce moment-là, je me dis, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à m'accrocher à ma foi et en gardant une bonne conscience. Et s'il y a quelque chose, quoi que ce soit entre moi et le Seigneur, alors il faut que je l'évacue, que je l'enlève. Alors je vous encourage, relisez. C'était un passage précieux. La première lettre à Timothée, Paul l'a écrit, on estime, à environ 3 ans avant d'être exécuté. Mais le deuxième livre de Timothée, Paul l'a écrit alors qu'il était emprisonné et qu'il attendait son exécution. Donc il donne ses dernières volontés, ses dernières instructions à Timothée. Et il rappelle à Timothée ce qui est important. Et il parle la vérité parce qu'il savait que c'était la dernière fois. Et il rappelle à Timothée en disant, Timothée, souviens-toi de ces choses. Paul écrit ses dernières volontés, ses derniers conseils à Timothée. Donc j'aimerais lire un passage. 2 Timothée 1, verset 14, c'est certainement un verset ou un passage que beaucoup d'entre nous connaissons. Et avant de continuer, permettez-moi encore de prier. Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole, alors que nous lisons ces versets, s'il te plaît, parle-nous. S'il te plaît, parle chacun d'entre nous. Parle-moi, parle à chacun. Que tu puisses révéler tes richesses, nous montrer tes richesses. Que ta grâce puisse être sur nous afin que nous puissions comprendre ta parole. Amen. Donc 2 Timothée, chapitre 1, à partir déjà du verset 12. Donc 2 Timothée 1, verset 12. « C'est aussi la raison de mes souffrances présentes, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. » Verset 13, « Tu as entendu de moi des paroles de vérité, fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous le bien précieux qui t'a été confié. Donc le premier point que j'aimerais mettre en avant est que Paul parle de lui-même. Paul dit en disant « je sais, moi-même, je sais ». Il ne parle pas de son père, sa mère, ses frères, sa famille. Il ne parle pas de son église ou de son groupe d'études bibliques. Il dit non, il dit « je sais ». Verset 12. Il parle donc de lui-même. « Je sais que j'ai pris la décision. C'est ma décision. Mais j'ai pris cette décision. » Et je ne dépends d'aucune autre personne. Je ne suis pas seulement un groupe. Je ne fais pas seulement ce que mes parents me demandent ou me disent de faire. Mais j'ai pris une décision. Alors tous peuvent écouter. Mais j'aimerais me demander, jeunes gens, jeunes filles, avez-vous pris cette décision ? Avez-vous été à ce point où vous avez dit, moi, vous pouvez mettre votre nom en disant, j'ai pris la décision de suivre le Seigneur. Si le Seigneur te prend ou reprend tout le monde autour de toi, est-ce que tu vas pouvoir dire, je sais, je veux suivre le Seigneur ? Est-ce que tu vas continuer ? Peut-être le Seigneur me prend et il te met parmi des gens que tu ne connais pas, tout seul. Est-ce que tu vas continuer à vivre la vie que le Seigneur t'a donnée ? Est-ce que tu es capable de te lever en disant « Je servirai le Seigneur, quel que soit les circonstances. » Donc là, Paul écrit en disant « J'ai la ferme conviction. » Dans d'autres traductions, il est dit « Je suis sûr. » Donc si tu es persuadé, tu ne prends pas la décision à la légère. Être persuadé, c'est j'ai écouté, j'ai lu les toutes choses, j'ai réfléchi et je suis arrivé à une décision. J'ai pensé toutes, j'ai revu toutes les différentes possibilités. J'ai calculé le coût, j'ai évalué le coût de chaque. Et je suis arrivé à une décision. C'est une bonne chose d'arriver à cela, de faire cela, de calculer le coût. Parce que nous devons être conscients que si nous servons le Seigneur, alors des choses vont nous arriver. Il y aura de l'opposition, il y aura des difficultés. Il y a quelques jours, je parlais avec quelqu'un. Cette personne m'a dit, alors, chaque fois que je fais ce que j'ai l'impression, ce que je pense être la volonté de Dieu, alors il y a de l'opposition. Chaque fois que je fais quelque chose que le Seigneur me met à cœur de faire, c'est comme si les choses vont de travers. Il en peut en être ainsi, parce que le diable peut attaquer, peut essayer de dérailler, de s'opposer. Donc en tant que chrétien, il faut savoir que cela est ainsi. Il y aura également des tentations. Et donc, après avoir considéré toutes choses, j'ai donc calculé le coût de toutes choses. Et alors je suis arrivé à une décision. Voilà ce que je vais faire. Et donc sinon tu vas être surpris si tu n'as pas fait cela. Paul écrit, j'ai la ferme conviction, je suis persuadé. J'ai expérimenté et donc j'ai pris la décision. Et je ne veux pas changer, je ne vais pas changer de cette décision. Que je sois en prison, que je sache que je vais être exécuté, quel que soit ce qui se présentera à moi, voilà ma conviction, voilà ma décision. J'ai demandé une fois à quelqu'un, comment est-ce possible que quelqu'un peut prendre une décision, prendre une même public, prendre une décision et au bout de quelques années changer. Alors tout d'un coup il y a un doute, tout d'un coup on commence à se poser des questions, tout d'un coup on commence à être à douter. Et cette personne m'a répondu, ne laisse jamais une question se poser dans ton cœur. Ne laisse jamais laisser une question questionner cette conviction que tu as eue dans ton cœur. Et je vais utiliser un exemple. J'étais là, peut-être je suis là dans l'œuvre de Dieu et quelque chose arrive que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui arrive. Alors je peux continuer la route avec cette question dans mon cœur. Et alors cette question grandit dans mon cœur au point où la balance est penche de l'autre sens. Pourquoi ? Parce que j'ai laissé cette question dans mon cœur et elle a grandi, elle a grossi. Mais si au moment où j'ai cette question et je vais voir un homme de Dieu en lui disant, écoute, voilà, j'ai telle question dans mon cœur. Alors je peux mettre à la lumière, c'est avec cette question, en disant, mais je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. Et je dois dire, chaque fois que je l'ai fait, après avoir exposé cette question, après avoir prié, alors là, j'ai toujours obtenu une réponse. Et je crois, je pense que chaque personne qui a un motif, une intention pure, obtiendra une réponse. Non pas que je vais avec déjà mes conclusions, plutôt que d'avoir simplement une question. Si je viens déjà avec mes propres conclusions, avec déjà ma réponse, alors c'est difficile d'être aidé. Mais si j'ai un motif pur en disant, Seigneur, je ne comprends pas quelle est la réponse, alors je n'ai jamais expérimenté une déception de ne pas comprendre. Donc ne reste pas avec une question dans ton cœur. Donc Paul nous dit ici, J'ai la conviction, la ferme conviction. Spurgeon a parlé ou parlait dans ses prédications du chrétien presque convaincu, du chrétien qui a presque pris une décision, mais il n'est pas arrivé encore à ce point. Peut-être cette personne ne veut pas faire le dernier pas. C'est pire d'être presque persuadé. Parce qu'il y aura toujours ce doute dans ton cœur, dans ton esprit. Paul écrit et dit : j'ai la ferme conviction. Et rien ne peut le faire dérailler de ce chemin. Et comment Paul, on peut se poser la question, comment Paul peut écrire une telle chose ? Il écrit, il dit ici, il dit, je connais celui, je connais Jésus. C'est quelque chose d'ancré dans son cœur. Alors, je connais beaucoup de monde, mais je me connais. Je me connais plus que les autres. Et la question est-ce que je connais le Seigneur et est-ce que le Seigneur me connaît ? Est-ce que c'est une relation vivante ? Ou est-ce que c'est simplement, oui, je le connais ? Paul pouvait dire, je connais, je le connais. Parce que c'est une relation vivante. C'est quelque chose où je lui parle et lui me parle. C'est une relation où je pose, j'amène mes besoins et il répond. C'est donc une relation, une expérience. Alors la question est, est-ce que toi tu l'expérimentes ? Il te faut expérimenter cela. Sinon, il n'y a rien. Cette relation doit être vivante. J'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié. Je suis prêt à tout lui donner. Cela concerne en premier lieu mon âme. Est-ce que je lui ai confié mon âme ? Mais cela va aussi pour ce que j'ai, sur ce que j'ai, pour ce que je fais dans la vie. Mon esprit, mon intelligence, mes talents, est-ce que je lui confie tout ? Tout, toute chose. Il attend tout de notre part. Et si je ne suis pas prêt à tout donner, alors peut-être sera-ce pire que de ne rien donner. Et ce que je lui ai donné, alors je lui ai confié et je ne peux pas le reprendre. Très souvent, les gens commencent avec de grandes intentions et puis au bout d'un moment, ils se disent « Non, mais je vais plutôt faire comme ceci. » Johnny Cash était un musicien, un compositeur très connu en Amérique. Il y a différentes versions sur cette histoire, mais l'essentiel, c'est qu'il y a un fil conducteur qui est commun. Il s'est souvent retrouvé face à des présidents, face à des personnalités. Donc c'est un chanteur connu aux États-Unis qui est né en 1932 et qui est décédé en 2003. Une fois, il a chanté même avec Elvis Presley, qui est un musicien, un chanteur très connu. Il a été élevé dans une famille chrétienne. Ses parents étaient chrétiens. À 12 ans, il a été baptisé. Et cette année-là, il a perdu son frère. Et souvent, il a relaté le fait qu'un jour, il retrouvera son frère au ciel. Et ses souvenirs, ses premiers souvenirs étaient marqués par la musique gospel. Il a appris la guitare par sa mère et par un ami. Et dès l'âge de 12 ans, il a commencé à jouer et à écrire des chants ou des chansons. À 12 ans. Alors imaginez, 12 ans, il écrivait déjà des chansons de gospel. Et quand vous lisez les paroles de ces chants, vous vous dites, mais il a dû expérimenter quelque chose avec le Seigneur. Et plus tard, il a sorti un album qui s'intitulait « Les hymnes, les chants de ma mère ».« Les hymnes de ma mère ». Il avait le désir de chanter pour le Seigneur. Et en 54, donc il avait 22 ans, à l'âge de 22 ans, il s'est présenté dans les studios Sun Records en espérant décrocher un contrat pour enregistrer un disque. Et il a fait donc une audition en chantant principalement les chants gospel qu'il avait composés. Et à ce moment-là, on lui a dit, mais monsieur, le producteur lui a dit, nous n'enregistrons plus de chants gospel, ça n'a plus de succès. Et on dit de ce producteur qu'il lui aurait dit, rentre à la maison et chante quelque chose que je pourrais enregistrer. Et Johnny Cash est revenu plus tard. Et il a réussi à convaincre ce producteur à enregistrer des chants avec des rockabillistes, c'est-à-dire l'ancêtre du rock'n'roll. Donc Johnny Cash s'est présenté avec des chants gospel et le producteur lui a dit « Ces gospel ne se vendront pas, nous avons besoin de musique mondaine ». Je me demande ce qui a passé dans la tête de Johnny Cash. Je me demande ce qu'il a pensé. Cela a dû être un croisement dans sa vie. Est-ce que je continue avec ce que j'ai appris, ce qu'on m'a enseigné à la maison, ou est-ce que je prends un autre chemin ? Ce talent que Dieu m'a donné, est-ce que je lui donne ou est-ce que je le prends d'entre mes propres mains ? Alors, jeunes gens, peut-être tu es face à ce genre de décision. Je voudrais étudier, je voudrais faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Est-ce que c'est alors l'esprit de Dieu ou ton propre esprit, ta propre volonté? Alors, Cash a fait son premier enregistrement. Et cela a alors rencontré un grand succès. Donc, Cash a pris un autre chemin et il a eu du succès. Alors, sache que ce n'est pas parce que tu as du succès que tu as forcément pris la bonne décision. Entre 1956 et 1967-16, il a écrit 30 chansons qui ont été au numéro 1 sur la liste des chansons jouées. Donc on pourrait dire qu'il a eu beaucoup de succès. Il a enregistré 96 albums et plus de 1500 chansons. Et en 1967, alors, il s'est retrouvé dans un problème. Il était accro aux médicaments. Et on dit qu'il en prenait plusieurs fois par jour, et avec des poignées, on pourrait dire des poignées entières de médicaments qu'il prenait. Et alors, il a commencé à boire. Il était connu pour son irritabilité, pour son comportement erratique. Et malgré le fait que sa vie tournait mal, il avait tellement de créativité qu'il était encore capable d'écrire des chansons qui étaient connues. Et même si c'était des sentences courtes, il a fait aussi 7 séjours en prison. Sa première femme l'a abandonné ou l'a divorcé parce que, à cause de sa non-addiction et son alcoolisme et sa vie immorale. Alors, si nous reprenons ce que nous avons donné au Seigneur, voilà le genre de résultat. Et même si, selon les standards du monde, il était béni, on pourrait dire, dans le monde, on dirait, il a eu du succès. Il était connu, il est connu dans le monde. Mais spirituellement, c'est un désastre. Si Dieu t'a donné un talent pour un objectif, pour sa gloire, et que tu le reprends pour toi, alors cela sera un désastre. Et voilà ce que Johnny a dit. J'étais... Dans son biographie, il a écrit « J'étais la vision même de la mort en sortant à chaque fois de prison, de l'alcoolisme, des accidents de la route. » Donc on pourrait dire qu'il a bien commencé, mais il a pris le mauvais virage à cause de sa drogue. Il s'est coupé de sa famille et de ses amis. Il était de plus en plus solitaire et en 77, il a tenté de se suicider. En octobre 67. Alors, écoutez ce qu'il écrit lui-même. Je ne voulais plus voir un nouveau jour. J'avais raté ma vie. J'avais dévié du plan de Dieu et de Dieu pour ma vie, et il n'y avait plus d'espoir pour moi. C'est pourquoi je ne voulais pas voir un nouveau jour. C'est ce qu'il a écrit lui-même dans sa biographie. Alors, ma séparation avec Dieu, avec le Seigneur, il a écrit avec une lettre capitale, majuscule. C'était la pire solitude que je n'ai jamais imaginée et expérimentée, de m'être coupé de Dieu. Il savait qu'il avait tourné le dos à Dieu. Et il continue en disant, j'avais dérivé loin de Dieu. C'est lui qui écrit en disant, j'avais dérivé. Et Paul écrit, j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder ce que j'ai donné. Alors dans ma Bible, il y a un petit paragraphe ou une note sur ce passage. Il est dit, j'ai la ferme conviction donc que alors disons la version française que j'ai, il dit j'ai la ferme conviction tout ce que j'ai mis ma confiance qu'il est assez puissant pour garder ce qu'il m'a confié. Mais est-ce d'autres traductions qui disent j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce que je lui ai confié. Donc il y a différentes traductions, soit quelque chose que j'ai confié au Seigneur, ou soit ce que lui m'a confié. Donc excusez-moi si j'utilise peut-être une mauvaise expression, mais on pourrait dire ce n'est plus le fait de dire, de prendre ce qui m'appartient, de mettre au pied du Seigneur et en disant « Seigneur, fais de cela ce qu'il te plaît et je prends un pas en arrière et je dis maintenant « Seigneur, c'est à toi, c'est ton tour ». Mais si on regarde cette traduction, donc c'est la traduction que moi j'ai en français, il dit « J'ai la ferme conviction pour garder tout ce qu'il m'a confié ». Donc la question se pose, qu'est-ce que je fais avec ce qu'il m'a confié ? C'est quelque chose qui doit nous faire réaliser en disant « Qu'est-ce que je fais avec ce qu'il m'a confié ?» Le Seigneur m'a confié certaines choses. Et alors le Seigneur veut voir ce que je vais faire avec ce qu'il m'a confié. Oui, il va nous garder. Mais je peux tourner le dos. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a dit, voici l'arbre. Il était ouvert. Ils pouvaient prendre cette décision. Mais Dieu leur a dit, je ne veux pas que vous mangiez du fruit de cet arbre. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'Adam et Ève mangent de l'arbre. Mais c'est intéressant que Dieu n'a pas fermé l'accès à cet arbre. Dieu ne voulait pas qu'ils mangent. On pourrait dire, mais il aurait dû simplement fermer l'accès de cet arbre. Ça aurait été réglé le problème. Mais d'une certaine manière, Dieu a présenté cela en disant à vous, à toi de décider. Donc le Seigneur nous donne, nous a créés en nous donnant la faculté de décider. Je peux décider ce que je vais faire maintenant. mais je vais devoir porter les conséquences de mon choix, de ma décision. Chaque décision aura des conséquences, que ce soit quotidiennement, que ce soit dans la semaine, ou quel que soit le temps, il y a toujours des conséquences à la décision. Alors, quelle est pour toi la décision ? Quand tu es face à une situation, comment est-ce que tu prends ? Quand tu es face à une situation, comment est-ce que tu prends la décision ? Es-tu conscient que le Seigneur te donne de pouvoir prendre une décision, mais que tu peux aussi prendre la mauvaise décision ? C'est important, c'est bon de savoir cela et de prendre soin de cela chaque jour, chaque minute de la journée. Afin que je n'aille pas à l'encontre de ce que le Seigneur veut. Le Seigneur m'a donné une intelligence, un esprit, et j'en suis responsable. Mon corps, le Seigneur m'a donné un corps. Quand il m'a créé, il a décidé comment serait mon corps. C'est lui qui a décidé de mon aspect. Je n'ai pas décidé, je n'ai pas eu mon avis à donner. Le Seigneur a décidé en disant, c'est ainsi que tu seras. C'est lui qui a décidé de la couleur de ta peau. C'est lui qui a décidé tu seras un homme ou une femme. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Alors, ne méprise pas ce que le Seigneur a décidé pour toi. Ne méprise pas ce que le Seigneur a créé. C'est comme une gifle dans son visage si je vais vers Dieu en lui disant « Seigneur, tu as fait une erreur ». C'est comme une gifle que l'on donne dans le visage de Dieu si nous venons à lui en disant « Ah, Seigneur, tu n'aurais pas dû faire ainsi ou comme cela ». C'est lui qui t'a donné ton corps et qui t'a rendu responsable de ce corps. Alors ne méprise pas ce qu'il nous a donné. Le Seigneur nous accorde aussi d'autres responsabilités. Dans ce que nous faisons, le travail pour lequel nous sommes responsables. Les choses que nous faisons avec les mains. Les choses avec lesquelles nous sommes occupés chaque jour. Où que tu te trouves, le Seigneur t'a confié une responsabilité. Et devant Dieu, nous sommes responsables de cela. Jusqu'au jour où cela sera révélé. J'ai pensé ces derniers jours en tant que chrétien, si je peux dire ainsi, Dieu nous appelle à l'excellence. Alors pourquoi est-ce que nous devrions faire les choses moins bien que le monde ? Pourquoi est-ce que nous ne devrions pas être un exemple pour le monde ? Le Seigneur m'a donné une responsabilité et veut voir ce que je vais en faire. va voir comment est-ce que je vais en prendre soin, de quelle manière je vais gérer les choses. Peut-être je travaille avec de l'équipement que le Seigneur m'a confié pour travailler dans son œuvre. Et alors je suis responsable pour cela. Et cela n'est pas seulement dans l'œuvre de Dieu, cela aussi dans ma vie. Peut-être le Seigneur m'a confié de l'argent, qu'est-ce que j'en fais ? Alors, qu'est-ce que tu as fait avec ce que le Seigneur t'a confié, ce qu'il a mis entre tes mains ? Ce n'est pas quelque chose qui m'appartient, cela m'a été confié. Si quelqu'un emprunte ma voiture et qu'il me la ramène le lendemain avec plein de bosses, de grayures, alors qu'est-ce que je vais penser ? Qu'est-ce que je vais dire ? Est-ce que je vais lui confier ma voiture de nouveau ? Alors la question se pose, que fais-tu ? Qu'as-tu fait avec ce que le Seigneur t'a confié ? De plus petites choses aux plus grandes. Peut-être est-ce pour cela pourquoi le Seigneur ne peut pas te confier plus. Peut-être le Seigneur t'a mis dans un mariage, dans un couple. Il t'a confié ce couple, ce mariage. Il a mis cette responsabilité sur toi. Il t'a confié cette responsabilité. Alors qu'as-tu fait avec ? Qu'est-ce que tu fais avec ? Comment est-ce que tu gères cela ? S'il y a un problème, comment agis-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, est-ce que nous sommes responsables aux yeux de Dieu ? Non pas à mes propres yeux. Est-ce qu'il est capable de dire : le mariage, le couple que je t'ai confié, tu es responsable ou tu te comportes avec responsabilité. Ne sera-ce pas un enfer lorsque Dieu, s'il doit un jour nous dire « Tu n'as pas été responsable avec le mariage que je t'ai confié. » Nous l'avons si souvent entendu. Le jeune homme en conviction, il entend la voix de Dieu et il a la conviction, voici la jeune femme que je dois marier. Et puis c'est la dernière fois qu'il entend la voix de Dieu. Le Seigneur, pour certains d'entre nous, nous a confié une famille. La famille dans la Bible est un des fondements de l'Évangile. C'est Dieu qui a institué la famille. Ça ne veut pas dire que la famille passe devant Dieu. Dieu reste premier, mais Dieu peut agir au travers de la famille. Et nos enfants nous ont été confiés, et spécialement les petits-enfants que nous avons encore. Quelqu'un m'a dit une fois quelque chose, et cela est toujours resté dans mon esprit. Quand l'enfant est né, il ne connaît pas le Seigneur. Il n'a pas de relation avec le Seigneur. Cela dépend de l'âge, mais jusqu'à 2, 3, 4 ans, l'enfant n'a pas de relation avec le Seigneur. Mais l'enfant a une relation avec ses parents, avec son père, comme moi, ou avec sa mère, ou avec celui qui s'occupe de l'enfant. Cette personne m'a dit que est-ce que tu te réalises que tu es l'image de Dieu pour cet enfant? Le petit enfant, tu es pour lui la seule autorité qu'il connaît. Donc si moi, en tant que parent, je lui parle et qu'il ne le fait pas, et que je laisse faire, alors c'est ainsi que je lui apprends à servir Dieu. Le jour où l'enfant rencontrera Dieu, alors il servira. Il obéira à Dieu de la manière dont il m'aura servi ou obéi. Alors, pense, réfléchis à cela. Il apprend de moi la manière dont il va servir le Seigneur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec cette responsabilité que le Seigneur m'a confiée vis-à-vis de mes enfants? Ce n'est pas étonnant. Pas étonnant que certains enfants ne servent pas le Seigneur ou le servent à leur propre manière, parce que quand on considère la manière dont les parents les ont enseignés, tu leur as enseigné qu'ils peuvent répondre, tu leur as enseigné qu'il faut leur dire 3-4 fois les choses avant qu'ils obéissent. Et quand ils arrivent à 12 ans, tu crois, tu attends à ce qu'ils se comportent différemment. Dieu nous a donné une responsabilité. Alors est-ce que nous sommes fidèles dans cela? Je parle de la famille. Cela me rappelle quand j'ai grandi. Dans ma famille, quand nous avons grandi, nous avions au moins une fois par jour un repas ensemble. C'est une bonne chose. Souvent le temps, le matin, nous n'avions pas le temps. Et à midi, chacun était à droite, à gauche. Et souvent, le soir, alors nous avions le repas ensemble et mon papa ne commençait pas le repas avant que tout le monde soit assis à table. Alors nous mangions, nous racontions tout ce qui s'était passé pendant la journée et alors il lisait un passage de la Bible. C'est si triste aujourd'hui, tu entends des familles où les enfants sortent, rentrent, font ce qu'ils veulent dans la maison, les parents ne savent même pas où ils sont. Et c'est quelque chose que j'ai entendu encore ces derniers jours. C'est triste. Tu demandes à la mère, ils sont où sont tes enfants? Ah, je ne sais pas, ils doivent bien être par là. Ces derniers jours, j'ai entendu l'histoire d'une famille où le garçon ne rentre même pas le soir à la maison. Il rentre le lendemain matin. Mais nous, en tant que chrétiens qui voulons servir le Seigneur, les choses ne devraient pas en être ainsi. Si le Seigneur nous a confié cette responsabilité, nous a confié la famille, nous en sommes responsables. Alors, ces derniers jours, nous étions à Durban pour la journée de sport pour l'école, pour la journée d'athlétisme. Et vous voyez alors des parents qui sont excités autour de la piste, plus que leurs propres enfants qui courent. Et les parents sont plus excités d'avoir une médaille que l'enfant lui-même. Je ne sais pas, certains parents, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est juste une observation. On voit les parents qui courent plus que leurs enfants à force de faire les allers-retours sur la piste. Et vous aviez une femme, une mère qui criait pour encourager son garçon. Elle était à l'autre bout de la piste ou du stade et elle criait pour son fils qui était à l'autre bout. Et tout le monde l'entendait. Et l'enfant, c'était un enfant, joueur de rugby, il a dit à sa mère, « Maman, si tu continues à crier comme ça, tu mets tellement l'embarras que je vais arrêter de jouer. » Donc, en tant que parents, nous faisons tout, nous encourageons l'enfant pour qu'il donne son maximum. Peut-être nous crions, nous encourageons, peut-être nous assurons qu'il ait la bonne nourriture. As-tu soif? Attends, est-ce que je peux pas aller chercher à boire? As-tu faim? Est-ce que je peux pas aller chercher quelque chose à manger? Là, tu t'es fait mal? Est-ce que je peux aller chercher une bande, un bandage? Parce que nous voulons le meilleur pour l'enfant. Alors je réfléchissais, je me disais, est-ce que nous faisons la même chose pour sa vie spirituelle? Est-ce que j'ai la même désir quotidiennement en disant, mon enfant, comment vas-tu spirituellement? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut? Je vois qu'il y a quelque chose qui te tourmente. Je vois que tu boites. Est-ce que je peux te donner une bande, un bandage? Alors, parents, peut-être ton enfant boite spirituellement et tu ne lui donnes aucun bandage, tu ne lui donnes aucun traitement. Tu vois que ton enfant n'est pas là où il devrait être. Tu peux voir en son attitude qu'il ne va pas bien. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Parfois, il nous faut prendre aussi des mesures. Alors, as-tu la même envie, le même désir? Je dirais même, est-ce que tu as plus de désir pour son attitude, pour sa santé spirituelle que pour sa santé physique? C'est pas étonnant que plus tard dans leur vie, certains enfants sont capables de faire des choses étranges. Et alors tout le monde est étonné, on s'étonne. Alors la prochaine fois que ton enfant est dans les difficultés, que les choses ne vont pas bien, ne demande pas à ton enfant alors comment les choses vont à l'école ou au travail. Non, demande-lui, mon fils, ma fille, comment va ta vie spirituelle? Comment est ton cœur? Un dernier point que je souhaite mentionner. Une des choses que le Seigneur nous a confiées, le verset 14, garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous le bien précieux qui t'a été confié. Le Seigneur nous a confié le Saint-Esprit. Alors, est-ce que ta vie lui fait plaisir ou est-ce que l'Esprit Saint est attristé par ta vie? Est-ce que ta vie réjouit le Saint-Esprit ou est-ce qu'elle l'attriste? Nous devons garder comme si nos vies en dépendaient. Dans ma Bible, si nous retournons, nous tournons la page, verset 11 du chapitre 6 de 1 Timothée, si nous tournons une page en arrière, il est dit « Mais toi, homme de Dieu, donc il s'adresse à Timothée, fuis toutes ces choses, recherche ardemment la droiture et l'attachement à Dieu. » Intéressant. Paul s'adresse à Timothée en lui disant « Toi, homme de Dieu. » Et il encourage en lui disant « Il te faut courir, il te faut continuer à courir. » Paul ne dit pas « Ah, Timothée, tu es un homme de Dieu, c'est bon, tu n'as plus besoin de courir, tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas affecté par ces choses. » Non. Il est dit, toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. En anglais, il est dit, cours loin de ces choses. Alors, comment est-ce possible? Peut-être tu entends l'histoire d'un homme de Dieu, un prédicateur, et tu entends qu'il est tombé dans le péché. Peut-être est-ce pour cela. Peut-être qu'il pensait qu'ils sont suffisamment forts et qu'ils n'ont plus besoin de fuir ces choses. Ils sont suffisamment forts et alors c'est là qu'ils tombent, qu'ils trébuchent. Donc, garde ce que le Seigneur t'a confié. Il dit, garde. Jusqu'au jour où je me tiendrai devant lui. Jusqu'à ce jour où il pourra dire « Bon et fidèle serviteur. » Si ce n'est pas le cas, alors les conséquences seront terribles. Merci.
We thank the Lord for his word.
Nous remercions le Seigneur pour sa parole, pour la parole qu'il nous a confiée. Beaucoup d'entre nous n'avançons pas spirituellement, ou alors nous trébuchons, ou alors nous trébuchons, ou alors nous ne faisons pas de progrès, parce que ce que le Seigneur nous a confié, nous ne le mettons pas en pratique. Nous l'avons entendu, le Seigneur nous confie, il t'a donné quelque chose. En toi, en tant que jeune fille, il t'a donné la pureté. On pourrait dire ce qu'il y a de mieux en toi, en tant que jeune homme, jeune gens. Alors la question se pose, comment est-ce que tu en prends soin? Comment est-ce que tu gardes précieusement ces choses? Cette parole est tellement profonde, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Excusez-moi si je saute d'un point à l'autre. Mais si nous considérons cette parole où Paul dit à Timothée, « Toi, homme de Dieu, fuis !» Beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas été confiants ou ils n'ont pas gardé ce que le Seigneur leur a confié, alors ils souffrent. Paul a dit « Je souffre à cause de l'Évangile ». C'est quelque chose qui construit, cette souffrance te rapproche de Dieu. Elle te motive. C'est une souffrance qui te donne du courage. C'est voilà la souffrance que Dieu permet dans notre marche avec lui. Une souffrance qui le rapproche de lui. Et Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Et la souffrance que j'expérimente, cela me permet de marcher plus avec le Seigneur, de faire encore plus ce qu'il me demande. Les choses que nous expérimentons qui sont difficiles, ces choses sont des étapes, non pas pour nous briser, mais pour nous construire, pour nous faire avancer dans notre marche. Et jeunes gens, le Seigneur t'a confié quelque chose, une pureté, juste pour ce jour de mariage. Le Seigneur nous le dit, il nous a confié pour être unis à lui. Toi, mère, le Seigneur t'a confié la responsabilité d'être un exemple pour tes enfants, de les élever dans la crainte de Dieu. Voilà la responsabilité qu'elle t'a confiée aussi, d'être soumise et d'être un encouragement pour ton mari. Et le monde nous enseigne l'opposé. Maintenant, tout le monde a des droits. C'est le droit des femmes, le droit des enfants, le droit de tous, sauf de l'homme. Et pourtant, c'est le rôle que Dieu, le rôle principal, on pourrait dire, que Dieu nous donne dans sa parole. Alors, fais l'opposé de ce que le monde t'enseigne. Ne va pas avec ce que le monde te donne. Parce que le Seigneur nous a confié quelque chose de précieux. Et j'aimerais terminer avec ce que j'ai mentionné par rapport à la souffrance. Il y a deux types de souffrance. La souffrance, une, les difficultés en tant que chrétien. Peut-être même d'autres chrétiens s'opposent à toi. Mais il y a une autre souffrance qui est encore plus terrible, savoir la souffrance qui est la conséquence lorsque on se compromet avec le péché. Alors examine ta vie. Le jour où tu as ouvert Internet et que tu as commencé à regarder la pornographie, examine la souffrance que cela a causée. Ce n'est pas étonnant que tu dois prendre des médicaments, que tu sois déprimé à cause de la souffrance qui sont la conséquence de ce que tu as commis. Et si tu es honnête avec toi-même, si tu es vraiment honnête avec toi-même, alors tu commenceras à oublier ce que les autres font en te disant, tu oublieras ce qui se passe autour de toi. Si tu regardes à Jésus et si tu le connais comme Dieu, comme tu l'as connu au début, quand tu l'as rencontré pour la première fois. Aujourd'hui, c'est le sujet. Pourquoi cette personne est ainsi? Pourquoi celui-là est parti et tu oublies d'examiner ta propre vie? Paul l'a dit, nous l'avons entendu. Il parle de lui. Il dit, je sais, j'oublie les autres. Je dois m'assurer que ma relation avec le Seigneur est juste et bonne. Et alors j'oublie ce qui est autour de moi. J'aimerais terminer avec un autre type de souffrance. Il y a des années en arrière, j'ai parlé avec une femme qui avait plus de 80 ans. Elle m'a dit, monsieur, vous savez quoi? Ouais, mais je crois qu'elle m'a dit, elle m'a même dit, mon garçon, elle avait plus de 80 ans. Elle m'a dit, mon garçon, tu sais, j'ai fait quelque chose quand j'étais une jeune fille. J'ai avorté d'un enfant. Elle m'a dit, mon garçon, j'ai plus de 80 ans aujourd'hui, mais je ne peux pas oublier ce que j'ai fait. Elle m'a dit, tu sais, la souffrance que j'ai expérimentée. Et quand je regarde ma montre, et alors je me rappelle, voici le jour où cet enfant aurait dû être né. Et tu ne peux pas savoir la souffrance que cela me procure ou me donne en me remémorant ces choses. C'est pourquoi nous voulons encourager les chrétiens à se tenir pour la vie, parce que le Seigneur est vie, Dieu est vie. Et peut-être le Seigneur t'a confié quelque chose de précieux, un enfant qui était proche de ton cœur, qui n'était pas né. Et qu'est-ce que tu as fait avec? Tu as coupé sa tête, non seulement cela, tu l'as mis en pièces. Et cette souffrance, ce type de souffrance, te rapproche vers l'enfer. Mais si une personne, comme cette femme de 80 ans, si tu confesses, si on confesse et on délaisse, alors le Seigneur oublie et il enlève cette souffrance. Paul a écrit, je souffre à cause de l'Évangile. Mais cette souffrance l'a rapproché de son Créateur, malgré le fait qu'il était proche de la mort. Et quelle que soit sa souffrance dans ta vie, que cette souffrance te rapproche de Dieu. Que le Seigneur, tu puisses écouter et entendre ce que le Seigneur, réaliser ce que le Seigneur t'a confié. Un des points, dans un des commentaires, il est dit que si Paul avait une telle conviction, c'est parce qu'il avait aussi une paix dans son cœur. Il avait la paix. Une paix, paix complète. Pourtant, il avait fait des choses terribles, mais il avait expérimenté le pardon au point qu'il avait une paix complète, totale dans son cœur. Alors la question est-ce que tu as cette paix dans ton cœur? Nous voulons prier. Seigneur, quand tu as rencontré tes disciples après ta résurrection, les disciples étaient pleins de peur, étaient remplis de peur, peut-être étaient-ils troublés. Mais lorsque tu es rentré dans cette pièce, même sans passer par la porte, tu as dit « La paix soit avec vous ». La paix devrait être la pierre angulaire de nos cœurs. Le Seigneur Jésus, c'est pourquoi tu es mort. Tu es mort sur la croix en sachant que le péché apporte la souffrance, brise les cœurs. Mais ta présence apporte la paix et apaise la tempête. C'est pourquoi nous prions, Seigneur Jésus, apporte ta paix dans nos vies. Ou que nous avons eu tort, que nous puissions mettre en ordre en sachant qu'en faisant ainsi, cette paix dont nous avons parlé régnera dans nos cœurs. Nous te remercions pour ta parole vivante. Seigneur, aide-nous que ce qui sera devant nous, malgré tout ce qui sera devant nous, que nous puissions être fidèles et droits dans ce que tu nous as confié, même avec ce que tu nous as confié aujourd'hui. Tout cela, nous demandons à cause de ton nom. Amen. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous garde. Merci.